Bonjour, aujourd'hui dans la Bibliothèque et compagnie, nous recevons un auteur que j'ai eu plaisir à rencontrer l'été dernier au Festival du Polar de Concarneau et que j'ai retrouvé ce week-end dans un autre festival, généraliste cette fois. Pierre Pouchéré est un auteur de polar connu et reconnu puisqu'il a obtenu le prix du Quai des Orfèvres 2017 après avoir publié 4 romans, je crois, chez Gigal, et il est revenu en janvier 2018 avec un roman publié dans la collection 109 de chez Plon, dont nous avons déjà parlé sur cette antenne. Pierre Pouchéré était notre invité pendant 2 semaines, cette semaine et la prochaine. Il nous parle de sa vie, de son œuvre, et puis on a un grand plaisir à écouter ce personnage attachant que je vous laisse découvrir, qui a la bonne idée de s'être installé dans le Finistère, donc pas super loin de Rennes. Et donc, je vous laisse découvrir Pierre Pouchéré autour de son livre « Tuez-les tous, mais pas ici », sorti chez Plon cette année, et on le retrouvera la semaine prochaine pour parler plus généralement de son travail d'écrivain.
Salut les amis, quelle drôle de vie sauvage. On est loin d'être gentil, de se faire tout petit, le monde est sauvage. L'homme est un animal, qu'oublie les animaux sauvages. Il tue les chacals, il dompte les chevaux sauvages. Les amis, on maltraite la nature sauvage. On ne respecte pas la vie, on balance nos ordures comme des sauvages. On ne peut plus boire de l'eau sur les bords des ruisseaux sauvages. On a fait des poissons une espèce de poison sauvage. Terre sauvage, plus beaucoup, des hommes sages, pas assez. On est barge, on est fou, on est l'humanité sauvage. Les amis, à ce rythme fini, le monde sauvage. Plus d'abeilles, plus de fruits, les merveilles de la vie sauvage. Les fleurs se fanent, le pollen s'égare au large, au large. Crépitement des flammes dans les branches des arbres sauvage. Terre sauvage, plus beaucoup, des hommes sages. Assez, on est barge, on est fou, on est l'humanité sauvage, 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 sauvage. Hé les amis, quelle drôle de vie sauvage. On est loin d'être gentil, de se faire tout petit, le monde est sauvage.
Sauvage.
Et les amis, on va prendre un revers sauvage. Notre terre si jolie va tourner à l'envers, dommage. On l'aura mérité si ça tourne à l'enfer, à l'orage. Il fallait préserver les montagnes, les forêts, nos rivages.
Terre sauvage, plus beaucoup, des hommes sages, pas assez. On est barge, on est fou, on est l'humanité. Terre sauvage, plus beaucoup, des hommes sages. On est barge, on est fou.
Bonjour, aujourd'hui sur Radio Rennes et Radio Évasion, nous sommes avec Pierre Poucheret. Bonjour Pierre.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors Pierre, vous êtes auteur de Polar, vous êtes prix du Quai des Orfèvres 2017 et vous êtes revenu au mois de janvier avec un livre sorti d'une toute nouvelle collection de chez Plon qui s'appelle 109, qui s'appelle Tuez-les tous mais pas ici. Donc, nouvelle aventure, j'ai envie de dire, parce que vos personnages principaux ne sont pas des flics. Vous êtes vous-même un ancien policier, un nouvel éditeur, une nouvelle collection, enfin bref, la totale. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter « Tuez-les tous » ?
Je crois que vous avez un peu planté le décor. Ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était d'avoir des héros qui ne sont pas policiers, de sortir un peu, de faire un peu le contre-exemple du prix du Quai des Orfèvres, c'est-à-dire d'avoir deux héros qui n'ont pas le code de procédure pénale comme boulet au pied et qui vont pouvoir vivre et mener une enquête complètement détachée de la police. Alors, mes héros, c'est un couple de parents divorcés, avec le père qui est un raté, qui a raté beaucoup de choses dans sa vie. C'est un ancien policier, c'est un ancien journaliste, c'est un ancien beaucoup de choses, un ancien mari et peut-être un ancien père de famille. Sa femme a un peu mieux réussi, elle gère une boutique de fringues de luxe à Quimper. Et ce couple, il va leur arriver un drame, leur gamine a disparu et ils vont mener une enquête pour essayer de la retrouver.
Alors, la gamine a disparu, ce qu'on pourrait dire, parce qu'on est sur une radio, sur deux radios bretonnes, c'est que la gamine habite Quimper.
Exactement, la gamine habite Quimper. Alors, elle habite même, pour être franc, exactement là où j'habite. J'ai décrit presque les lieux de ma résidence, qui est à l'île Tudy, exactement. Et cette gamine a disparu, elle était scolarisée, c'est presque une majeure, elle est à 18 ans. Et les parents vont surtout s'apercevoir qu'ils la connaissaient pas bien. En grattant un peu, en faisant appel à ses anciennes connaissances, Louis Loubriac, qui est le père, va penser qu'elle est peut-être, je dis bien peut-être, partie en Syrie. Et de là, ils vont essayer de remonter sur le parcours qu'elle a pu faire et essayer de la retrouver.
Alors, vous parliez de Louis Loubriac, il y a une vraie évolution. Moi, je trouve ce personnage, on dit c'est un loser. C'est vrai qu'il n'est pas très sympathique au départ. Et puis, en fait, moi, je trouve que la disparition de sa vie, le bouleverse, évidemment, change l'homme. Et en fait, on découvre un personnage assez attachant, qui a quand même quelques qualités humaines, qui a peut-être un peu loupé pas mal de trucs, mais qui peut se rattraper. Et est-ce que c'était un vrai boulot difficile d'écriture de faire évoluer un personnage comme ça et de mettre en scène au départ un mec qui n'est pas forcément sympathique et donc on a peut-être un peu plus de mal à rentrer dans le bouquin ?
Non, mais j'ai voulu travailler vraiment ces deux personnages. Lui, comme sa femme, ça va peut-être être un peu l'inverse. Elle va se révéler peut-être plus méchante qu'elle n'était au début. Mais je crois qu'en fait, tous parents, si nous arrivait ce genre de drame, je crois que ça change profondément une vie. Et ça fait changer le personnage aussi bien psychologiquement que lui donner le fuel qui lui manquait jusque-là et lui faire, comme on dit souvent, rapprocher des montagnes, tout bousculer.
Et alors, il va tout bousculer, pas seulement en France, parce que je parlais de Quimper, mais l'histoire se passe à Quimper, se passe à Paris, en Turquie, en Syrie. Ça nécessite une grosse documentation, tout ça ?
Alors, pas tellement, parce que j'ai surtout puisé dans ma mémoire, puisque j'ai eu la chance de travailler pendant 3 ans en Turquie. J'ai travaillé avant en Syrie et au Liban. Et j'ai souvent traversé la Syrie pour me rendre en Turquie. Alors, tous les lieux qui sont au sud de la Turquie, ces lieux, je les connais bien. J'ai été aidé aussi pour me documenter, disons, par un journaliste de Libération qui a travaillé sur les mouvements islamistes en Syrie et qui, pour mener ses reportages, a souvent traversé clandestinement la frontière. Et donc les lieux qui sont traversés par mes personnages sont des lieux qui ont servi réellement de lieux de passage. Alors bon, tout ça change. Aujourd'hui, vu l'évolution de l'actualité, les lieux que je décris sont certainement sous les combats entre Turcs Kurdes. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse les traverser aussi bien. Ça a dû se passer ailleurs maintenant. Mais tout ce qui est décrit sur le moment, on est dans le réel.
Sur Radio Rennes, Radio Évasion, aujourd'hui nous sommes avec Pierre Poucheret qui signe « Tuez-les tous » mais pas ici aux éditions Plomb. Pierre, on parlait avant la musique de ce côté de zone un peu floue qui change sans arrêt.
Vous avez aussi pris le parti, pour rester un petit peu dans l'actualité, parce que tout change, mais d'implanter votre histoire en province. C'est pas un hasard, c'est pas seulement parce que vous habitez en Bretagne. Vous vouliez pas que votre jeune qui disparaisse, et peut-être les jeunes qui disparaissent, soient pas forcément parisiens.
Oui, tout à fait. Bah, je voulais implanter ça dans la province. Alors pourquoi ? Parce que on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup des gamins qui ont été touchés par cet appel au djihad. C'est des gamins provinciaux. Et moi, je me suis servi beaucoup d'un fait dont j'ai eu la connaissance. C'est une amie à moi dont le gosse a fêté Noël avec elle. Et entre Noël et le jour de l'an, il a disparu. Elle a pensé qu'il était parti entre les fêtes, faire la fête justement avec ses potes. Et quand elle a plus vu revenir, au bout d'un moment, elle s'est inquiétée et elle a appris qu'il était parti en Syrie. Et elle a eu des nouvelles de lui la fois où il l'a appelé via Skype pour lui dire qu'il était en Syrie et qu'il s'apprêtait à faire le djihad et qu'il allait lui gagner le paradis. Donc, une surprise, elle en est tombée à la renverse. Comme je pense tout parent pourrait vivre ça sans rien comprendre. Et c'était important pour moi donc de placer ça en province. Alors, en plus, en Bretagne, je crois qu'on a eu un imam un peu sulfureux, donc pourquoi pas. Et puis, il y a eu d'autres faits qui, dans l'actualité, ont montré que dans la région, on pouvait être touché par ce problème.
Alors, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée encore et qui est quand même très présente dans votre livre, c'est l'intervention de, je ne sais pas comment les qualifier, est-ce que c'est des forces gouvernementales, des services secrets, on ne sait pas, d'ailleurs, vous ne nous expliquez pas forcément tout ça, mais on a l'impression qu'il y a des gens qui agissent en sous-main, qui dirigent peut-être pas des mouvements, mais qui influencent des gens sans qu'ils le sachent forcément. Il y a plein de non-dits que vous mettez en avant.
Voilà. Alors déjà, ce qu'on a peut-être oublié de mentionner, c'est que mon héroïne, là on est en train de parler de djihad, de Daesh et compagnie, mais elle est peut-être pas partie pour exactement ces raisons-là. On peut pas tout dire, sinon ça déflorerait le roman, mais elle est partie peut-être pour d'autres raisons. Et à côté de ça, dans mon livre, il y a une grande partie qui donne place à une machination, manipulation d'État avec des hauts fonctionnaires manipulateurs qui ont le sentiment d'agir pour le bien de la collectivité en toute illégalité et vont faire des choses non seulement répréhensibles sur un plan pénal mais aussi sur un plan moral. Et il va donc mes héros vont être énormément impacté par l'action de ces hauts fonctionnaires. Alors là aussi, je me base un peu sur des souvenirs. Alors déjà des souvenirs que nous avons tous. Ce genre de hauts fonctionnaires, ça existe. On peut se rappeler des paillotes en Corse, du Rainbow Warrior, des gens qui dépassent tout ce qui était prévu par leurs autorités et font en sous-main des choses pour notre bien-être, chaque fois en pensant qu'ils ont raison de le faire. Mais il peut arriver qu'il y ait des pots cassés. Voilà.
Il y a un mot que vous n'avez pas évoqué, mais qui pour moi transparaît à chaque fois qu'ils apparaissent, c'est supériorité ou peut-être condescendance, on a l'impression que ces gens-là ont la vérité vraie et puis nous, les simples, moins que rien, on suit le mouvement, quoi.
Oui, alors là, je fais aussi véritablement appel à des souvenirs. Je ne veux pas dire du mal de tous les hauts fonctionnaires, mais parmi les hauts fonctionnaires, il y en a certains qui, effectivement, pensent qu'ils ont la vérité absolue, qu'ils sont supérieurs à leur ministre et qui ont envie de nous gérer. Et ça, c'est souvent très, très grave.
Alors, il y en a un à qui vous attribuez un château dans la Sarthe. Vous avez des ennuis avec François Fillon ou quoi, Pierre ?
Non, pas du tout. Ça m'a un peu amusé. Non, c'est juste un clin d'œil.
transport. Voudras-tu, voudras-tu de cet or qui affleure dans le lit asséché de la rivière bientôt libérée. À deux pas du barrage assiégé,
dernière partie de notre première émission avec Pierre Poucheret aujourd'hui sur Radio Rennes et Radio Évasion. Pierre, on croise beaucoup de personnages dans votre livre, on le disait, de la Bretagne à la Syrie. Vos personnages à vous, les personnages principaux, les Loubriac dont la fille a disparu, sont assez radicaux, j'ai envie de dire. Enfin, même s'ils découvrent la vie, qu'ils en prennent un peu plein la tronche. D'autres jouent beaucoup plus double jeu, il y a pas mal d'hypocrisie. Je pense notamment aux protagonistes turcs. On a l'impression qu'ils travaillent pour celui qui leur donnera le plus d'argent, ou est-ce qu'il y a une vraie conviction, une foi, une conviction d'une mission? Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, vous connaissez ça mieux que moi.
Non, mais mes protagonistes turcs, je suis dans l'actualité. Alors dans l'actualité, j'ai mis en scène d'anciens policiers, des policiers qui ont été révoqués parce que suite... au coup d'État qu'il y a eu en Turquie, Erdogan a limogé plusieurs milliers de fonctionnaires dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Et donc, j'ai un groupe de trois policiers qui sont à la rue et qui effectivement se donnent au plus offrant. Donc ces gens-là ont des compétences qu'ils ont acquises du temps où ils étaient flics. Et maintenant, vont les mettre tantôt pour le bien, tantôt pour le mal.
C'est l'argent qui dicte tout. C'est un peu ça la morale de cette histoire.
Non, mais mon histoire, c'est quand même une fiction. Alors il faut des personnages qui soient un peu noirs et ceux-là en sont.
Alors, il y a d'autres personnages, là j'aimerais bien qu'on fasse un petit clin d'œil. Vous avez un personnage qui s'appelle Elvis Costello, alors ça faut l'inventer. Vous êtes fan ou quoi ?
J'étais très fan d'Elvis Costello à ses débuts, dans la fin des années 70, début 80. Et c'est le physique qui m'a amusé. J'aime bien souvent imaginer mes personnages. Soit en leur donnant un parallèle pour un héros de cinéma ou de la chanson. Et là, j'avais envie qu'il ressemble à Elvis Costello. Mais effectivement, je suis un grand fan des débuts d'Elvis.
Vous faites, c'est vrai, beaucoup référence à des acteurs de cinéma quand vous décrivez vos personnages. C'est un moyen de toucher la culture populaire parce qu'on est dans un genre populaire et donc on voit tout de suite de quoi ça parle. Ça va plus vite que de dire qu'il est grand, petit, brun, blond.
Alors, j'ai l'impression que pour le lecteur, ça permet peut-être plus de le visualiser. Mmh. Oui, peut-être que je pense que j'ai pas le talent nécessaire pour les décrire, et je fais cette économie avec un personnage qu'on identifie tout de suite.
Alors, vous faites aussi un autre clin d'œil, et là, c'est une culture qui, moi, me parle, ou une référence qui me parle. Vous comparez même un personnage à Jim McClure. Alors ça, c'est vraiment rare dans les romans noirs. Hein. Et vous pouvez peut-être nous rappeler qui c'est, d'ailleurs, Jim McClure.
Ah bah, Jim McClure, c'est un garçon qui aime beaucoup la bouteille. Hein. Moi, je suis un fan de Blueberry, et Jim McClure, c'était un des héros qui accompagnait Blueberry. Et sa caractéristique, c'est qu'il était souvent fortement alcoolisé. Voilà, une grande passion pour le bourbon.
Et donc ça, et vous, alors moi je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que les gens savent encore qui est Jim McClure ?
Ah bah je crois, hein, il y a encore des lecteurs de Blueberry, vous devez le savoir aussi bien que moi. Moi dans mon esprit, je pense que oui, il y a encore beaucoup de lecteurs qui savent qui est ce héros.
Alors... Pierre, donc on parle un peu référence là. Est-ce que vous avez des références quand vous écrivez du polar, vous avez des références polardeuses qui dominent, ou vous écrivez vraiment ce que vous avez envie d'écrire sans vous embarrasser du reste ?
Vous voulez dire des auteurs de polar qui m'ont... Alors bon, il y a un auteur actuel que j'aime beaucoup, c'est Michael Mancion. Après, moi, j'ai pas de référence vraiment dans le... J'ai pas une culture de polar. Très honnêtement, moi, je lisais du témoignage, un peu de littérature blanche, mais je ne lisais pas vraiment, j'étais pas un féru de polar avant d'en écrire. Et c'est sur les salons que je rencontre d'autres auteurs, sur les salons spécialisés polar, et que j'ai envie de faire la connaissance de mes voisins. Et maintenant, quand je lis des chroniques, étant dans ce milieu, ça me donne une envie de connaître les autres. Mais j'ai pas la culture polar.
Vous n'écrivez pas sous influence ?
Non, sans le savoir.
D'accord. Bon, Pierre, on arrive au terme de cette première émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine ?
Eh bien, avec grand plaisir. Merci à vous.